Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, bonjour. Ah, je suis absolument ravie de recevoir, c'est ma semaine, mon mois femme, Claire Cochetier la semaine dernière, Sophie Menet cette semaine. Donc je reçois aujourd'hui Sophie Menet, directrice générale de GA résidentiel immobilier. Vous allez m'expliquer un petit peu plus GA, la manière dont vous fonctionnez, puisque jusqu'à présent vous étiez orientée plutôt sur le tertiaire. Grâce à votre venue, le groupe se développe d'une manière extrêmement intéressante sur le résidentiel. Bonjour Sophie.
Bonjour Myriam.
Alors, expliquez-moi un petit peu ce fameux parcours.
Alors effectivement, le groupe GA, c'est un groupe qui est très ancien, qui a été fondé en 1875.
Oulala.
Et qui a décidé dans les années 70 de se spécialiser dans ce qu'on appelle la construction hors site. Donc, en deux mots.
Alors, expliquez-moi hors site, parce que effectivement, ça commence à devenir quand même un terme utilisé dans nos métiers, mais quelques précisions ne peuvent pas faire de mal.
Exactement. Alors, le hors site, en fait, c'est le principe de concevoir avec une maquette numérique un immeuble, ensuite de préfabriquer l'ensemble de ses composants.
C'est comme un Lego, c'est ça? C'est un espèce de Lego hors du terrain, quoi.
C'est un espèce, effectivement, on peut dire ça comme ça, c'est le Lego des temps modernes. En tout cas, c'est préfabriqué dans nos usines, puisque le groupe possède 8 usines sur l'ensemble du territoire. Et ensuite, c'est ces composants qui sont acheminés sur le chantier pour y être assemblés.
Alors, vous pensez qu'avec ce type de paramètres, cette manière de faire, on répond à tous les usages, peut-être pas? Qu'en pensez-vous?
Alors, si on répond, on n'y a pas de difficulté pour répondre à tous les usages. Effectivement, le groupe jusqu'à aujourd'hui est très beaucoup plus orienté sur les aspects tertiaires, activités, plateformes logistiques et industrielles. Mais c'est tout le justement toute la
l'enjeu,
l'originalité et l'enjeu de ma venue qui est de développer le hors-site dans le monde résidentiel. Pourquoi? Principalement avec une nouvelle norme qui nous arrive sur le coin du nez qui s'appelle la RE 2020.
Qui est censé évoluer 25, etc. jusqu'à.
Alors effectivement, il y a un niveau RE 2020 qui est entre guillemets encore assez facile à avoir avec des méthodologies constructives traditionnelles. À partir du moment où on essaye d'arriver au seuil carbone de la RE avec les niveaux 2025, 2028 puis 2030, on se rend compte aujourd'hui qu'il faut vraiment taper dans le dur et changer les méthodologies constructives.
Alors surtout, pour répondre un petit peu au questionnement des auditeurs de Radio Immo qui sont tous extrêmement férus d'inventivité, de créativité. Le premier salon du bas carbone où vous étiez fortement représenté, où le groupe est intervenu d'une manière assez importante, ne serait-ce qu'en essayant d'alpaguer Monsieur le ministre Olivier Klein pour justement lui parler de cette fameuse méthode hors-site. Est-ce que vous pouvez quand même développer un petit peu le propos? Comment fait-on pour convaincre les politiques et convaincre les élus?
Je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même un grand nombre de politiques qui sont assez convaincus de la nécessité de passer à cette méthodologie constructive. Il faut savoir que si on regarde un peu les territoires autour de nous, l'Angleterre y est déjà passée depuis quelques années, la Belgique construit quasiment 100% hors site, les pays nordiques également.
Pourquoi nous sommes en retard, hein?
Je sais pas si on peut dire qu'on est en retard. En tout cas, on est resté encore aujourd'hui assez traditionnel dans l'acte de construire logement. Ce qui est moins le cas en tertiaire puisque on a plus l'habitude de construire, par exemple, sur des méthodologies type photopoutre. Mais c'est vrai que le logement, en France est resté encore assez traditionnel.
Est-ce que c'est parce que les majors nous ont encensés avec le tout béton pendant des années? C'est vrai que, enfin, on peut pas oublier que vous êtes une ancienne bouille. Et donc, peut-être, justement, c'est un parcours formidable que d'être passé du tout béton ou tout hors site mais sans faire la boutade, on est quand même un petit peu quand même en retard par rapport à nos voisins. Comment fait-on pour rattraper ce temps?
Ben, pour moi, en fait, pour rattraper le temps aujourd'hui, il est important qu'on arrête de se dire que ce qu'on fait, ça marche, que ça marche pas si mal que ça. Parce que quand je regarde un peu les statistiques, on construit avec des délais qui ne font qu'augmenter.
Terrible.
On est la seule industrie en France qui a diminué sa capacité de production ces 50 dernières années. Et on livre des logements dont les niveaux de finition sont de plus en plus bas, avec plus de réserves qu'il y a 10 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire face à ça? Ça veut donc dire que, un, il faut effectivement être en capacité d'adresser du logement de façon beaucoup plus rapide. Et dans ce cadre-là, effectivement, le hors-site est une bonne réponse parce que globalement, on arrive à peu près à diminuer par deux les délais de travaux. Et puis, il faut adresser aussi un immobilier beaucoup plus décarboné. Et pour répondre à votre question, Myriam, sur mais pourquoi on faisait comme ça? On faisait comme ça parce que ça passait encore dans les normes et que c'était la solution la moins chère.
Voilà,
aujourd'hui, quand la matière première flambe, comme on l'a connu, et que c'est pas fini, et qu'en plus, on a des impositions environnementales, plus des pénalités hein, qui vont arriver avec des taxes sur le béton, forcément, il faut se remettre en question et faire autre chose.
Pour répondre à cette question, puisqu'on a 500 000 logements par an à construire, on est extrêmement en retard, on a aussi des problématiques de foncier, donc on peut avoir une solution hors-site formidable, encore faut-il avoir le site pour faire du hors-site, c'est-à-dire que je suppose que vous avez aussi d'énormes problèmes pour trouver le foncier éphémère, occasionnel, qui va pas très loin du vrai site répondre aux besoins pour justement faire de la préfabrication. Huit sites en France. Hein.
Alors, l'enjeu principal du hors-site, ça c'est clair, c'est que quand on dit que ça divise par deux les délais et que ça divise par deux l'empreinte énergétique, il faut effectivement, pour diviser par deux les délais, avoir des vraies capacités de production en usine. L'enjeu principal du hors-site, c'est la réindustrialisation des territoires et c'est la capacité de produire aujourd'hui l'acte de construire dans des usines au lieu de le produire sur les sites.
Donc vous avez des partenaires, comment faites-vous?
Alors nous, on a une particularité, c'est que notre première raison d'être, c'est d'être industriel. Donc effectivement, on a des très grosses capacités de production. Si je cite ne serait-ce qu'au Savoie, vous avez parlé du site K, sur le salon de l'immobilier bas carbone, on a présenté des solutions 2D et 3D. Donc 3D, c'est des modules. Aujourd'hui, au Savoie, par an, sont capables de sortir presque 3000 modules. Donc on a une très forte capacité de production, ce qui permet d'être dans des délais assez records, puisque je vais te donner deux chiffres en 3D, mais qui parleront à tout le monde. On a livré l'année dernière 150 chambres étudiants en un peu moins de 4 mois. Et cet été, 3000 m² de bureaux à Monaco en un mois.
Alors, vous prêchez convaincu parce que moi qui voyage beaucoup aux États-Unis, j'ai l'habitude justement de mettre sur les réseaux un petit peu les challenges cet été, une douzaine de logements en 15 jours, clos couverts, incroyable. Bon, évidemment, pas à l'intérieur, mais bon. Ça veut dire que cette préfabrication, ce challenge, on peut y répondre aujourd'hui, mais ne pensez-vous pas qu'il s'agit d'une vraie réponse par rapport à des logements dédiés, personnes âgées, étudiants, avec une gestion un peu particulière? Est-ce que ça s'adresse aussi à l'accession? Parce qu'au fond, peut-être que j'ai besoin de ma salle de bain avec mon goût et peut-être pas d'une salle de bain préfabriquée. Peut-être que j'ai besoin de pas avoir le sentiment d'être dans une, entre guillemets, boîte. Comment fait-on pour avoir cette subtilité?
Ah ben, ça a été tout l'enjeu du CIPCA. J'espère que vous avez visité
le module. Mais bon, là, on est en interview, donc c'est peut-être pas à la radio. C'est peut-être moins visuel. Expliquez-nous.
Non, mais c'est ça qui est très important, en fait. C'est de faire comprendre aux gens que, bien évidemment, de base, on a tendance à penser tout de suite à des modules qui vont venir constituer l'intégralité de l'enveloppe.
Oui, on a l'impression.
C'est absolument pas ce sur quoi, pour moi, il faut travailler sur le logement familial. Quand on parle de logement familial, on a des contraintes. Et aujourd'hui, moi, je sais que j'ai souvent des élus qui me posent cette question-là. Et je lui dis, mais vous croyez pas que ça fait 50 ans qu'on nous impose de vivre entre deux voies béton tous les 5 mètres parce que c'est deux places de stationnement et ça permet de descendre les charges. Donc, non, le hors-site, c'est pas de l'architecture, ce n'est pas des boîtes, c'est une capacité finalement de préfabriquer des éléments structurels qui sont soit assemblés en usine, soit assemblés sur chantier. L'avantage quand c'est assemblé en usine, c'est que ça permet de faire l'intégralité des corps d'état, techniques et architecturaux, et surtout de livrer avec l'objectif d'un zéro réserve. Notre objectif quand on
alors ça veut dire que comment fait-on pour être ça veut dire que vous avez dans vos usines les électriciens, les plombiers et donc pour du résidentiel lorsqu'on a je dirais des acquéreurs qui savent exactement ce qu'ils veulent peut-être en accession sociale ou en BRS, enfin dans un mode je dirais de gestion patrimoniale qui est un petit peu différente, quand on a des acquéreurs qui sont entre guillemets des acquéreurs un peu plus difficiles avec des TMA, etc.
C'est exactement tout l'adressage que j'ai voulu faire avec Rouge, qui est la nouvelle marque grand public qu'on a dévoilée au CIPCA. Moi, je fais un constat quand même dans l'immobilier neuf. C'est que sur toutes les plaquettes des promoteurs, y compris les miennes, hein, quand j'étais dans d'autres structures, on vendait des logements très personnalisables. Et en fait, qu'est-ce que vous pouvez personnaliser ? Vous pouvez choisir votre type de robinet. Vous pouvez choisir de vous acheter une paroi de douche parce que de base, elle n'y est pas. Et puis alors là, vous avez le choix. Vous avez 3 versions de paroi de douche. Vous pouvez choisir de changer votre receveur de douche. Et puis, vous pouvez choisir la couleur de la faïence que l'on met juste au droit des équipements sanitaires. Si avec ça, vous avez personnalisé votre logement, ben vous allez être bien pauvre. Et pour moi, la personnalisation du logement, c'est absolument pas ça. Et je pense qu'on se trompe sur ces sujets-là. Et c'est ce qu'on a voulu démontrer avec le module qu'on a mis. C'est que
parlez-nous de Rouge, donc cette nouvelle marque que vous avez lancée. Si on n'a pas le temps, chère Sophie, de développer, nous reverrons pour une deuxième interview. Mais Rouge, c'est évidemment pas Rouge R-O-U-G-E, mais Rouge R-2-O-J. Déjà, une petite explication?
Alors, une petite explication sur le mot. Alors, le mot est arrivé assez rapidement pour plein de raisons. Le premier, c'est que je pense que vous connaissez un peu le logo GA. Le logo GA, il est rose. Il allait mettre du rose dans une boîte de BTP. C'était assez osé à l'époque. Mmh. Et quand le rouge est arrivé, on a trouvé que c'était assez malin, en fait, de continuer à travailler.
Ça questionne, évidemment, et ça donne envie d'en savoir plus.
Ça questionne et puis ça préempte aussi une couleur. Le rouge, il est pas rouge, il est corail. Donc ça, c'était un peu le deuxième élément. Et puis le rouge, finalement, ça transmet beaucoup d'éléments liés à des émotions. Et pour moi, le logement, c'est vraiment un lieu de vie. Donc c'est un lieu dans lequel on va vivre des choses, on va connaître des émotions, on va pouvoir. Donc voilà, il y a tout le côté rouge aux joues, etc., qui nous a beaucoup plu sur ce mot. Et puis la façon de l'écrire aussi, avec la logique d'ambigramme, le fait de finalement le logement est le reflet de soi-même. Et finalement, dans habitat, il y a habit.
Et dans rouge, il y a jour, parce que
dans rouge, il y a jour.
Voilà, et jour.
Alors, il y a jour aussi, et effectivement, les saisons, etc. Donc, ça nous offre beaucoup de façons de s'adresser au grand public, parce que comme vous le disiez, je pense qu'aujourd'hui, la cible B2B, donc les élus, les aménageurs, sont assez convaincus de cette méthodologie constructive et il faut qu'on y passe. Et après, il faut qu'on s'adresse au grand public autrement. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu m'adresser au grand public en leur disant, mais finalement, je veux une marque forte qui va venir casser les codes de l'immobilier traditionnel. Je veux qu'on s'adresse à vous autrement. Et pour revenir au sujet de la personnalisation, dans un des thèmes très importants que Rouge relève, c'était la notion de habit de sa vie. Dans habitat, il y a habit. Et effectivement, l'habitat, c'est l'habit de notre vie, c'est l'habit de notre histoire. Et quand on réfléchit un petit peu à l'habit, finalement, notre habit, il n'est pas personnalisable, mais il est personnalisé. Et ce que je porte, c'est le reflet de moi-même. Ah,
Sophie, je veux pas vous couper la parole, mais ce que je vous propose, c'est que nous enchaînions sur une autre interview parce que je veux que vous développiez un peu plus le rouge, mais nous arrivons au terme de celle-ci. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, Sophie. À très vite sur nos antennes.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.